campagne. Bonjour, les carnets font leur retour pour une 13e saison, 13 porte-bonheur, c'est espéré. Et si c'est le cas, on va le partager avec vous. Personnellement, le nombre a tendance à me poursuivre. 13, c'est le numéro de rue de mon domicile. Je vais devenir le louchien à force. 13 et surtout 13 heureux de vous apporter des nouvelles fraîches, des faiseurs des départements et des pays, ou des agités du local, comme on aime les appeler. Pour cette reprise, le premier département choisi avec le jeu des 1000 euros est donc celui de Loire-Atlantique, puisqu'on vient de le signaler il y a un court instant. Oui, on les entend, les mouettes au loin. Ça tombe bien pour conserver un souffle de vacances du côté de la Baule ou du Croisic. Toujours plus d'habitants dans cette Loire-Atlantique, partagée entre ces trois arrondissements de Nantes, Châteaubriant et Saint-Nazaire. Si quelques nouveautés vont entrer dans vos oreilles au cours de cette saison, nous ne changerons évidemment rien des valeurs qui conduisent les actions des inventeurs du quotidien. Et de la proximité, la solidarité, l'équité, le bien vivre ensemble. Bel exemple aujourd'hui avec Frédéric Tabary, premier invité, qui transforme des poids lourds, figurez-vous, en refuge d'urgence pour les gens de la rue. Son projet a pris le nom de une villa en urgence. La ville de Saint-Nazaire, elle, a pris l'initiative d'engager en début d'année une personne ressource afin d'initier un public en marge de l'ère numérique. Elle s'appelle Isabelle Pasquereau, elle sera notre seconde invitée.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Frédéric Tabary, bonjour.
Bonjour, enchanté.
Nous de même, surtout qu'avec Jean-Charles Lelay, vous êtes tous deux designers et architectes à Nantes.
Ouais, tout à fait, on fait ce qu'on appelle du design global.
Ah, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on design autant des paires de lunettes que le siège social, que du mobilier pour des grandes marques, ou des maisons, de l'architecture pure, tout simplement.
Ou des camions frigorifiques.
Ou des camions frigorifiques, alors ça sort un petit peu du lot, mais après tout, c'est aussi dans du design global. Ça consiste en fait à recycler des camions frigo qui ont plus de 12 ans d'âge et les transformer en habitat d'urgence pour les sans-abri, par exemple.
Mmh. Alors, je découvre, parce que j'avais entendu parler de votre invention, que je trouve absolument géniale, il faut qu'elle se développe. Au bout de 12 ans, les camions frigorifiques n'ont plus l'autorisation de circuler qu'une marchandise fraîche.
Alors en fait, tous les 9 ans d'abord et ensuite tous les 12 ans, les camions passent une sorte d'examen.
Oui.
Et en fait, les transporteurs considèrent qu'au bout de 12 ans, l'examen coûte finalement plus cher, la remise en état plus cher que de réinvestir dans des remorques neuves. Et du coup, effectivement, ce marché de la semi-d'occasion se retrouve dans un premier temps en France, puis sur les marchés étrangers, et très souvent, bien évidemment, dans les pays où les normes sont moins restrictives et où on peut travailler avec des camions qui ont plus de 12 ans d'âge.
Voilà, donc ça part par exemple en Afrique.
Par exemple, alors ce qu'il faut imaginer, c'est que certes, ils vont s'en servir quelques années, mais que dans 10 ans, ces camions ne seront plus du tout utilisés parce qu'ils seront pas hors d'usage. Et là, pour le coup, ils se retrouveront sur les décharges africaines.
Ouais. Alors, chez nous, on n'en est pas loin, Frédéric, parce qu'il n'y a pas de recyclage de ces fameux camions frigorifiques.
C'est clair, le panneau sandwich en France est un produit qui est assez peu recyclable et qui est très polluant. Et effectivement, le fait de lui donner une durée de vie supplémentaire, et une épine qu'on retire dans le talon de nos amis transporteurs, qui, pour une fois, au lieu d'être considérés comme pollueurs, peuvent devenir des gens solidaires. Mmh. Et on a effectivement aujourd'hui pas mal de transporteurs qui s'allient à notre cause. Soit nous donnent des camions, soit nous les revendent à pas cher. Mais en tout cas, nous permettent effectivement de remettre sur le marché des espaces de 33 mètres carrés quand même, hein, qu'on peut remettre à disposition des personnes sans-abri. Alors quand je dis les sans-abri, c'est tous les sans-abri, hein. Il n'y a pas de polémique sur le sujet. C'est pas plus les migrants que les SDF, que les hommes, que les femmes. Enfin, je dirais même que c'est plutôt d'abord les femmes et les enfants.
Oui.
Et ensuite, le reste de la population sans-abri.
Oui. Voilà. Quand on voit le nombre de personnes à la rue, quand on voit le nombre de personnes réfugiées, ballottées entre deux ou trois pays, comme on a eu le très vilain exemple, quand on pense aux réfugiés climatiques à l'horizon 2050 qui vont se compter par centaines de milliers,
il y a 250 millions.
250 millions.
Donc je dirais qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'entraîne à être solidaire. Ben, moi, j'ai toujours eu comme devise liberté, égalité, fraternité. Mmh. Je pense que la France devrait se redoter de ces trois beaux mots et faire en sorte que effectivement, on trouve des solutions pour accueillir des gens chez nous, des gens qui ont tout à fait leur place.
Ouais. Alors, vous, designer global, Frédéric, vous avez inventé une deuxième vie, donné une deuxième vie à ces camions frigorifiques qui deviennent de véritables logements qui peuvent accueillir entre 6 et 12 couchages. En moyenne, ça a un coût de 20 000 euros par camion.
Alors, a priori, c'est plutôt 27 000 euros, puisque aujourd'hui, on a des coûts d'achat du camion qui sont estimés entre 4 et 8 000 euros.
Oui.
Et ensuite, on a les frais de recyclage. Et alors là, pour le coup, on fait de l'économie circulaire, puisqu'on fait recycler nos camions par des entreprises de réinsertion. Puis ensuite, il faut compter changement de carte grise, les déplacements divers, les raccordements. Donc, on arrive plutôt sur une somme de 27 000 euros au global.
Mmh. Voilà. Et je tiens à dire que tout est possible dans ce reconditionnement des camions. Il y a des fenêtres, on peut faire
oui.
salle de bain.
On fait ce qu'on veut.
On fait ce qu'on veut.
Voilà,
en fait.
Tout à fait. Par défaut, les camions sont aménagés de 8 à 12 couchettes avec salle de bain, donc WC, douche et lavabo, et tout ça raccordable au réseau eau chaude, évacuation des eaux, etc. On a un ballon d'eau chaude aussi dans le camion. On peut aussi imaginer être en semi-autonomie avec ce qu'on appelle un skide. Ce sont des grosses cuves qui permettent de rendre le camion semi-autonome. Mais on peut aussi transformer le camion pour une famille avec des grands lits. Et donc s'adapter complètement en fait à ce que demande l'association. C'est ça qui est très important, c'est que ces camions ne sont qu'un tremplin et ne peuvent être adossés qu'à des associations dont c'est le métier. Par exemple, sur Paris, on a l'association donc le SAMU social qui prendra en charge le camion parisien, et on aura autour d'autres associations, comme par exemple la Fête des Familles. Cette association, elle est en charge de permettre aux femmes qui vont habiter dans ce camion, notamment de pouvoir se faire maquiller, soigner, pour leur permettre de reprendre confiance en elles et de repartir dans la vie.
Merci pour eux, Frédéric. Le site,
merci,
c'est unevillaenurgence.org, tout simplement.
Tout à fait.
Merci, super. Continuez.
Et puis, on compte sur tout le monde, hein, en termes de dons, parce que cet argent aujourd'hui vient de l'État, des assos, mais aussi des grands patrons, et puis aussi des particuliers. On est aussi sur l'îlot, par exemple.
Exact. Voilà. Merci, Frédéric.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand, sur France Inter.
Je vais partir d'une anecdote personnelle, si vous m'accordez cette liberté, pour vous présenter un site et une application bien utiles. Cet été, je suis parti à la visite d'un haut lieu historique de ma région, un site majeur du patrimoine national. Je vais éviter de donner son nom pour l'instant, même pendant cette chronique, parce que j'ai croisé un groupe de personnes dites à mobilité réduite, pour dire simple, des personnes en fauteuil roulant. L'entrée, ça commence. Une pente gravillonnée pour accéder à la cour du château, avec le risque d'une dégringolade dans les douves ou d'un ensablement dans la cour avec ses 12 cm de gravelle d'épaisseur. On retrouve des personnes cantonnées dans une pièce du rez-de-chaussée par défaut d'accès à l'étage. Et vous, en traversant cette pièce, vous ressentez et vous éprouvez un sentiment de malaise mêlé d'injustice et comble du ridicule. Il y a une rampe d'accès à la billetterie d'entrée qui est rendue inutilisable avec une porte de 80 cm de large. Autrement dit, impossible d'y passer avec un fauteuil roulant. Pour éviter ce genre de mésaventure et de connaître ce type de désagrément, un site vient d'être créé en Loire-Atlantique. Voilà, nous y sommes sous le nom de Ici OK. Ça s'écrit ICIOKAY. Son application gratuite permet d'obtenir tous les critères d'accessibilité avant de se rendre à un événement ou dans un site à visiter. La démarche des créateurs de Ici OK de, je cite, participer au vivre ensemble en proposant le même confort de sortie pour tous, pour toutes, et en tenant compte également des déficiences visuelles et auditives lancées depuis peu dans les pays de la Loire et en Bretagne. L'application attend votre participation pour étendre son périmètre, obtenir de nouvelles idées de sortie, parce que vous pouvez aussi vous inscrire et gonfler ce contenu. Le site, c'est www.icioquet.fr. Bravo en tout cas à ceux qui ont eu cette belle initiative. Isabelle Pasquereau, bonjour.
Bonjour Philippe.
Isabelle, vous êtes écrivain conseil. Première question, quelle différence y a-t-il entre un écrivain public et un écrivain conseil ?
Oh, c'est juste une question de titre, mais en fait ça représente la même réalité. Hein. C'est que l'écrivain public, dans l'esprit des gens, c'est celui qui intervenait auprès des personnes illettrées autrefois, alors qu'aujourd'hui ça a bien changé. L'écrivain conseil, il a un rôle beaucoup plus polyvalent, il intervient auprès de gens qui savent écrire, mais qui pour différentes raisons ne veulent pas ou ne peuvent pas écrire.
Vous avez une démarche très très intéressante. La bibliothèque Anne Frank de Saint-Nazaire, c'est la ville de Saint-Nazaire qui a fait appel à vos services ?
C'est la médiathèque. La médiathèque, Bénédicte Guillou, qui est donc la responsable de l'action culturelle et éducative de la médiathèque de Saint-Nazaire. Mais effectivement, c'est un financement croisé entre la politique de la ville et puis la médiathèque.
Et donc, vous êtes écrivain public numérique à Saint-Nazaire ?
Oui, et donc j'assiste le public dans ses démarches dématérialisées, qu'elles soient d'ordre administratif ou privé, peu importe. Voilà, je ne forme pas moi-même. Les gens viennent me voir simplement pour que je puisse les aider, souvent en urgence, pour, par exemple, renouveler un permis de conduire, pour envoyer des mails avec des pièces jointes, pour enregistrer des attestations du Pôle emploi sur une clé USB, enfin bref, tout ce qui concerne le numérique, en fait.
Mais vous devez être sollicité et débordé.
Alors, c'est vrai que ça commence bien. Oui, il y a du public qui se rend aux permanences. Après, c'est pas toujours, on n'est pas toujours débordé, mais il faut le temps que ça se mette en place.
Je faisais la relation entre la fracture sociale et la fracture numérique. On peut parler de fracture culturelle.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que les médiathèques sont impliquées dans ce grand plan national d'inclusion numérique, hein, parce qu'on est en plein dedans. Les enjeux de cette inclusion numérique, c'est la cohésion sociale, mais c'est aussi garantir l'accès aux droits de tous, dont le droit à la culture.
Alors, les difficultés sont pour les personnes qui habitent en zone rurale. Certains n'ont pas les moyens, l'ordinateur à domicile ou le smartphone, mais pire, quand il y a une très mauvaise connexion, qu'on a besoin d'entrer avec un service, de Pôle emploi, de la CAF, des services administratifs et des services publics. Comment fait-on ?
Alors, c'est vraiment compliqué, hein, parce que c'est vrai que les facteurs d'influence sur l'autonomie numérique, c'est l'âge, les plus de 70 ans ont du mal, ceux qui sont non diplômés, ceux qui disposent de bas revenus, et puis effectivement, dans les secteurs ruraux, ça devient compliqué. L'autre jour, j'avais une personne qui voulait renouveler son permis de conduire, mais il n'avait pas de PC chez lui, il n'avait pas d'adresse mail. Donc, à partir de là, ça devient vraiment, vraiment très compliqué. Parce qu'on peut tout à fait leur créer une adresse mail, mais après, encore faut-il qu'ils puissent accéder à une boîte mail. Alors c'est vrai qu'en bibliothèque, il y a des postes à disposition, mais ce sont des gens qui ne savent pas forcément faire. Donc bref, c'est vraiment compliqué.
Et ça implique à ce public rural de se mobiliser, d'aller à Saint-Nazaire vous voir.
Alors oui, s'il n'y a pas d'autres lieux de médiation numérique, oui, ils sont obligés de se déplacer et ils le font pas forcément. Hein. Moi, à Saint-Nazaire, je ne reçois pas de personnes des secteurs ruraux.
Oui, je m'en doute. Alors on parle, je sais pas si c'est un néologisme ou si c'est maintenant déjà entré dans le dictionnaire, d'électronisme.
Oui, oui, tout à fait. C'est un terme qui est apparu il y a quelques années, en même temps que l'e-inclusion, l'e-exclusion, l'e-administration, la fracture, la précarité, les démarches dématérialisées. C'est vrai que c'est tout un ensemble de nouveaux termes qui sont apparus.
Mais vous avez précisé, c'est un accompagnement, effectivement, mais vous ne réalisez pas la tâche à la place de ces personnes.
Alors si, justement, pendant ces permanences d'écrivain public numérique, les gens viennent avec une demande relativement urgente. Ils ne savent pas faire, ils ont besoin en urgence qu'on aille sur le site de l'ANTS, par exemple, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, et qu'on les dépanne, qu'on leur montre un petit peu comment faire. Mais on n'a pas forcément le temps de travailler là sur l'autonomie. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait des ateliers de formation qui permettent une montée en compétences de ceux qui veulent accéder à l'autonomie. On propose, à côté de ces permanences d'écrivain public numérique, et bien des tas de ateliers qui permettent de faire en sorte que les gens puissent se débrouiller par eux-mêmes.
Et en sachant qu'il y a urgence, effectivement, puisqu'en 2022, l'État aura mis en ligne 100% des services publics.
Et oui, ça fait peur.
Hein. Oui, absolument.
Ça a quelque chose de violent, en quelque sorte, parce que on peut dire que cette ère numérique, c'est un peu comme un train, le train du numérique, et puis qu'on demande à tout le monde de prendre le train en marche. Or, si on étudie les facteurs d'influence là sur l'autonomie numérique, on se dit que les plus âgés de plus de 70 ans, prendre un train en route, c'est pas facile. Oui. Ceux qui n'ont aucun diplôme et qui disposent de bas revenus, c'est un peu comme si on leur demandait de prendre le train, mais sans avoir pu s'acheter de billets.
Exactement.
Ceux qui habitent en zone rurale, c'est un peu comme si on leur disait, prenez le train, mais il n'y a pas de gare à l'endroit où ils habitent. Donc c'est compliqué, c'est une forme de violence.
Bravo pour l'initiative. Alors, hors vacances scolaires, c'est tous les samedis matin, la permanence, 10h-12h,
à la
Bibliothèque Anne-Franck à Saint-Nazaire. Merci beaucoup Isabelle.
Je vous en prie, merci Philippe. Au revoir, bonne journée.
Dans les bonnes inventions, demain, nous soulignerons celle du dispositif Brio, dispositif d'égalité des chances afin que les jeunes de milieux modestes puissent accéder à un enseignement supérieur et à un emploi de qualité. Et puis on interrogera l'étrange groupe d'intervention des grenouilles non violentes, groupe de désobéissance civile du département de Loire-Atlantique. Et puis avant de rejoindre le jeu des 1000 euros, la semaine prochaine, pour la première semaine de septembre, nous serons dans le département de la Vendée avant de traverser les Deux-Sèvres. Alors j'insiste, si vous voulez nous écrire, cafeter, dénoncer positivement les acteurs ou actrices du local des Deux-Sèvres, n'hésitez pas, avant la Vienne et le département de l'Isère.